Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Éthique. Tout de suite, une interview réalisée par Pascal Marcadji.
Son pseudo, Ragondin. L'un de ses films documentaires, L'Angélique et les Ragondins, ses fréquentations, le très occupé ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll et le maire de Bordeaux Alain Juppé. L'un est plutôt un ami, l'autre plutôt moins. Olivier Sigaud est journaliste pour L'Écologiste, réalisateur, professeur en sociologie de l'environnement et à ce titre, rétribué par le ministère de l'Agriculture. Jolie façon de cultiver le paradoxe.
Stéphane Le Foll, je lui passe le bonjour, il aime bien mon boulot, il lit ce que j'écris. Après, il est dans une position un peu en porte-à-faux. Moi, j'ai été recruté par concours, donc sur un poste entre guillemets d'ingénieur, donc c'est sciences sociales et gestion de l'environnement. J'ai beaucoup appris sur l'agriculture. Toute la pédagogie de terrain, elle vient de ce qu'on a fait, parce que c'est vrai qu'on a des choses assez gonflées, mais c'est vrai qu'on est dans un environnement très anxiogène, celui d'un milieu assez réactionnaire, le milieu des agriculteurs, d'ailleurs qui n'envoient plus leurs gamins dans les lycées agricoles, celui des métiers de la nature où il n'y a pas de boulot, donc on forme des gens pour aller un petit peu au casse-pipe. Hein. Puis aussi la question de la ruralité, c'est-à-dire que les lycées agricoles sont souvent à l'écart des villes et dans des lieux qui sont en perte de vitesse. Avec la métropolisation. Donc effectivement, c'est un paradoxe, mais un paradoxe, c'est étymologiquement, à côté d'un discours officiel, on se confronte à une réalité. La réalité pour moi, c'était de rencontrer les milieux populaires du monde agricole. Le milieu agricole sur lequel j'ai écrit, pour lequel j'ai eu une grande sympathie, c'est des gens qui bossent, qui sont investis et qui ont été aliénés par les ingénieurs, par l'encadrement qui était autour. Hein. On a fait des guerriers vis-à-vis de la nature, alors qu'ils étaient associés à la nature au 19e. Hein. Et puis, pour revenir aux formations, ben là, le problème, moi je me suis battu pour ouvrir les formations vers l'écologie urbaine, vers l'écologie humaine, sortir un petit peu ce côté des BTS environnement, les assiégés là dans les établissements. Mais moi je pense que j'aurais été prof d'éducation nationale, je l'ai été, hein, j'étais instituteur à une époque, je me serais un peu ennuyé, j'aurais pas vécu ce truc qui vient du paradoxe. On a un champ expérientiel qui est énorme. On a des fermes où il y a eu des OGM, où il y a des expérimentations animales, la zootechnie et tout. Et ça permet, quand on cultive un esprit critique, de rebondir dessus et de s'opposer. Après, ça donne des conflits, moi, ou des drames. Mais j'ai toujours été soutenu par ma hiérarchie, par mon administration. Hein. Et je pense que l'enseignement agricole ne doit pas se faire bouffer. Parce qu'il faut savoir que l'enseignement agricole vient de la pédagogie freinée au départ. Des gens un peu éclairés, qui sont minoritaires, mais qui ont un rôle très très important. Il y a vraiment une histoire à faire sur cet enseignement qu'on connaît mal.
La catastrophe de Namoco Cadiz, la lutte antinucléaire, le livre fondateur « La nature n'en peut plus ». Dans les années 70, l'écologie passait alors par l'émancipation.
Ah, ça a été mon instituteur Freinet. C'est-à-dire que j'étais un petit banlieusard. On recomposait une petite micro-ferme dans les classes. On allait voir le salon de l'agriculture. On allait faire des classes promenades. Et on avait surtout, via cette pédagogie active, la possibilité, vous avez 7, 8 ans, 9 ans, à être un peu maître de votre savoir, à vous intéresser à des sujets. Moi, je me suis intéressé, je me souviens, aux fourmis. Ça avait été une révélation. Donc voilà, c'est une construction progressive. C'est une espèce de liberté de pensée qu'on peut vous transférer. Je pense que les gamins, ce sont vraiment des éco-warriors, des éco-rebelles, et qu'on a tendance à anesthésier. Là, vraiment, les choses se jouent importantes. Après, il ne faut pas leur demander aux gamins de régler les problèmes de leurs parents. C'est-à-dire que ce n'est pas un gamin de gérer la question des déchets, c'est aux parents. Au gamin, à lui, de concevoir sa relation équilibrée à la nature, l'environnement, l'humilité de la place de l'être humain. Mais c'est vrai que tout ça, c'était des révélateurs que j'ai oubliés à un moment donné et qui sont revenus après quand j'étais au lycée avec le combat antinucléaire, avec la prise de conscience écologique que j'ai réoublié quand j'ai fait Sciences Po parce que voilà, l'université n'intègre pas ce type de formation, ce type de réflexion. Et puis que j'aurais découvert en étant enseignant et que je fais partager, je fais que redonner ce qu'on me donne. De toute façon, le cycle trophique, le cycle chimique, c'est ça, c'est de prendre et de redonner.
Depuis l'enchantement du petit banlieusard pour les fourmis, le combat écologique a en même temps avancé et reculé.
Alors moi j'étais sensible aux pollutions, aux poussières, et c'est vrai qu'on respire mieux à Paris, ça c'est sûr que des choses ont changé au niveau de ce qu'on appelle l'environnement qui apparaît à cette époque. Par contre sur l'écologie, la nature, on a énormément régressé, ça veut dire que jamais les écosystèmes ont été autant abîmés, jamais ont été autant l'enjeu de business, ça nourrit la sphère médiatique, ça nourrit le monde de l'industrie, donc il y a aussi là des paradoxes, c'est-à-dire que la qualité de vie des villes devient plus favorable, faut le reconnaître. Quand on arrive d'Afrique, on arrive à Paris, on a l'impression d'être à la campagne parce que l'air n'est pas pollué. Alors après, au niveau planétaire, c'est une catastrophe aussi au niveau environnemental. Je reviens du FIPA à Biarritz, j'ai vu des films sur les catastrophes écologiques en Mongolie, en Chine. C'est catastrophique, c'est absolument hallucinant.
L'Angélique et les Ragondins, Submersion, les terres d'Olivier et Sigaud, le Sud-Ouest avec en ligne de mire l'aménagement de Bordeaux et les quais de la Gironde.
Ben oui, faire de l'Angélique qui a bloqué l'aménagement des quais et qui a mis tout le monde en émoi. Courajoux, qui était l'architecte, paix à son âme, il est mort depuis. C'est devenu un enjeu politique. Après, moi je trouve que Juppé c'est un triste cire, c'est un Rastignac, c'est quelqu'un qui s'intéresse absolument pas à l'écologie. Moi j'ai eu des appels de pied à la mairie pour bosser avec eux, mais non, moi je bosse vraiment pour la science, la pédagogie, l'ouverture. On est en train de massacrer la ville. Là, c'est un reportage que je fais là, sur l'aire métropolitaine. La transformation de la ville avec la construction en zone humide, en zone inondable, d'éco-quartiers soi-disant qui sont absolument pas pérennes et qui modifient complètement la structure de la ville. C'est une ville qui vit avec le fleuve. Le fleuve, c'est carrément un morceau d'océan puisque c'est un estuaire. La ville est construite sur l'eau et on doit respecter l'équilibre normal du cycle de l'eau. C'est-à-dire qu'on est sur des zones humides, on ne peut pas construire n'importe quoi, sinon il y a des inondations, des affaissements. Et là, il y a une mutation parce que la ville appartient aux investisseurs, aux businessmen. Et alors, oui, il va développer son côté développement durable, développement soutenable, éco-quartier. C'est vraiment scandaleux. Et en plus, on arrive à mettre ça dans la tête des gens. On fait des prophéties autorisatrices, c'est-à-dire qu'on fait de la servitude volontaire. Juppé a construit habilement autour de la communication sa carrière là-dessus, mais c'était vraiment un escroc. Écologiquement, c'est un escroc. Et le pire est à venir pour la ville. Oui. C'est l'objet d'un film que je fais, et puis c'est l'objet de mon boulot aujourd'hui, c'est-à-dire cette relation entre gestion de la ville, écosystème. Et c'est une question qu'on a fait poser au Parlement, c'est on pourra protéger les terres agricoles, pas en construisant dans un MAP, c'est en inscrivant dans le marbre la protection sur les plans locaux d'urbanisme des terres agricoles, l'impossibilité d'en faire des terres constructibles. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire. Et Stéphane Le Foll n'a pas été capable de répondre sur cette question qui était posée, parce qu'il ne veut pas se mettre les maires à côté, mais il faut que l'État considère que c'est de l'enjeu public, collectif. Ces espaces qui restent, ils sont déterminés pour le cycle climatique, ne serait-ce que ce sont des lieux de stockage du CO2 naturel, qu'on ne connaît pas grand-chose du fonctionnement d'ailleurs d'une prairie, d'un bosquet, de ce que vous voulez. Alors ce qui est intéressant, c'est quand on fait des films, quand on fait des spectacles, on mobilise les gens. Et moi, ça me redonne le moral, parce que l'écologie, j'y crois plus trop en termes d'enseignement, puisqu'enseigner à des étudiants des choses, alors qu'on fait le contraire. Mais au moins, on va dans le mur, mais on y va en rigolant. Et voilà, bon, c'est une manière un peu cynique de faire les choses. Parce que c'est pas bon aussi de toujours porter le poids du monde sur ses épaules et d'apparaître toujours comme l'emmerdeur. Parce que ça, c'est le problème des lanceurs d'alerte. Il y a un côté malsain qui peut se développer. Je pense qu'il faut qu'on se disperse tous à la fois le côté heureux, bienveillant, puis le côté aussi difficile. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'associatif qui sont pas bien portants parce qu'ils prennent ce stress-là.
Submersion, son documentaire sur le changement climatique sort bientôt en salle. L'Angélique et les Ragondins est toujours sur Internet, pendant qu'Olivier Sigaud tourne son prochain documentaire sur le quartier de Bordeaux qui hérisse sa chevelure foisonnante et désobéissante comme sa pensée forgée à l'école Freinet.
C'était une interview réalisée par Pascal Marcaggi.